Le message que j'ai préparé n'a rien de nouveau. Toutes les générations doivent l'entendre et nous devons le réentendre plusieurs fois dans notre vie. La vie est difficile. Je ne vous apprends rien. C'est un combat. Et ce n'est pas de maintenant. Et Dieu n'en est pas la cause. Nous transmettons nos erreurs et nos inconséquences à nos enfants, à la génération qui vient. Nous-mêmes, nous avons hérité de nos parents, de la génération précédente, et ainsi de suite. Nous remontons à Adam et Ève. La chute à cause du péché, à cause de la désobéissance qui a entraîné la malédiction et la mort. Donc, depuis le début, la vie est difficile à cause de cette malédiction que nous lisons dans la Genèse, au chapitre 3, verset 16, donc Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Si la vie est dure pour gagner déjà sa subsistance, pour lutter contre la maladie, le dépérissement des corps, cela aussi est difficile de vivre et de garder la foi en notre Dieu. Dieu avait mis l'homme dans un paradis, mais le diable est venu semer le doute. Dieu a tout mis en œuvre pour notre salut, et Jésus nous affirme qu'il connaît tous nos besoins et qu'il prend soin de nous. Mais le diable, sans cesse, veut nous faire perdre notre confiance en Dieu. Ce que le diable a fait avec Adam et Ève, en Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Dieu a-t-il réellement dit ? Jésus nous révèle la nature profonde du diable dans Jean chapitre 8. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. La vie chrétienne est donc bien un combat. Comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il ne faut pas se tromper de combat. Il faut garder la foi. Paul le précise plus loin au chapitre 6. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combattre le bon combat de la foi, c'est lutter contre le diable qui, dès le départ, a mis le doute, a semé le doute dans le cœur de la femme et de l'homme. Combattre le combat de la foi, c'est croire Dieu, lui faire confiance, rejeter les accusations du diable, rejeter les doutes qu'il met en nous. Et nous ne combattons pas, bien sûr, comme nous ne combattons pas les hommes, mais nous combattons les idées et les mensonges qui viennent du diable. Dans Éphésiens au chapitre 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Effectivement, l'apôtre nous fait prendre conscience qu'il y a une autre réalité que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Il y a des puissances dans les lieux célestes, il y a des dominations, des autorités, il y a des anges qui sont au service du diable et qui agissent dans le monde, qui insufflent des idées et qui cherchent à combattre la foi, tout simplement. La foi en Dieu, la confiance en Dieu. Et sans cesse, nous pouvons être assaillis par ces choses. Puisqu'il nous faut combattre, il nous faut aussi utiliser des armes. Mais quelles armes ? La semaine dernière, le 14 juillet, il y avait défilé, bien sûr, comme tous les ans, défilé des différentes armées sur les Champs-Élysées. Il y avait les armes, les nouvelles armes du 21e siècle qui étaient présentées. Les hommes dépensent des milliards pour construire des armes de plus en plus performantes. Mais comme nous venons de le lire, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc nous n'avons pas à utiliser ce genre d'armes. Jésus déjà l'avait dit dans Matthieu au chapitre 26. Alors Jésus lui dit, et à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Ce que Paul d'ailleurs précise en 2 Corinthiens au chapitre 10, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce sont les raisonnements, les pensées que nous combattons. Ce ne sont pas les hommes. Et nous combattons le diable qui met des mauvaises pensées dans le cœur des hommes, qui veut les faire douter, qui veut leur faire abandonner la confiance en Dieu. Malheureusement, les hommes n'ont pas obéi au commandement d'amour du Seigneur. Tout au long des siècles, ils ont combattu avec des armes, ils ont utilisé des instruments de torture, ils ont brûlé des hommes, des femmes sur des bûchers. Et cela, ce n'était pas seulement les païens qui le faisaient, mais c'était au nom de l'Église. L'Église, l'institution, la religion a malheureusement combattu avec des armes. Elle a fait brûler les personnes. Elle les a fait subir des interrogatoires, des tortures pour les faire abjurer leur foi et revenir à la foi, entre guillemets, catholique. Parce que, bon, malheureusement, c'est cette dernière qui a le plus utilisé ce genre de choses. Mais bon, parmi les protestants, il y a eu aussi de mauvaises choses. Hein. Ils le faisaient au nom de l'Église, au nom de Dieu. Alors que nous venons de lire deux passages qui nous disent clairement que nous n'avons pas à faire cela. Et la semaine dernière, donc, dans son message, Sylvain nous l'a rappelé. Il ne nous appartient pas de combattre de cette manière-là. Nous ne combattons pas, nous ne tuons personne, nous n'allons pas éliminer quelqu'un parce qu'il a des pensées différentes et que malheureusement il est dans l'erreur. Nous allons témoigner de la vérité, mais nous n'allons pas combattre à la manière des hommes. De Corinthiens 13, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » C'est pour la vérité que nous combattons. Notre combat est de garder la foi et de propager la vérité, c'est-à-dire de propager Jésus-Christ. Il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous propageons. C'est lui, de lui dont nous parlons. Et nous combattons pour lui. Alors ne nous perdons pas dans d'autres combats humains. C'est un combat spirituel. Mais c'est un combat journalier. Journalier tout au long de notre vie. Chaque jour, nous devons combattre pour rester dans la vérité. Nous utilisons, comme dit Paul en 2 Corinthiens 6, les armes offensives et défensives de la justice. Pour tenir ferme contre les ruses du diable, nous devons, comme je l'ai dit tout à l'heure, utiliser des armes, mais ce sont les armes de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens au chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour devenir soldat, il faut apprendre à manier les armes. Nous devons donc aussi apprendre à utiliser ces armes que Paul décrit. Nous travaillons pour la vérité, pour le Seigneur, qui est la vérité, comme on l'a dit tout à l'heure, pour proclamer qu'il est vivant et qu'il reviendra, qu'il nous a sauvés par son sang. Tout ce que l'Évangile nous apprend de notre Sauveur, la vérité de l'Évangile, tout cela nous maintient comme une ceinture. Pas une petite ceinture d'ornement, mais une ceinture qui maintient les reins, l'abdomen, les ceintures que mettent les soldats, et qui nous garde droit, sans relâchement, prêt au combat. C'est la ceinture de la vérité. C'est aussi vivre dans la vérité, dans la droiture, sans dissimulation et sans mensonge. Un chrétien ne peut avoir une double vie. L'apôtre Jean nous dit dans sa troisième épître, « L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Plusieurs fois, vous voyez, la vérité qui est en toi, la manière dont tu marches dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est ça qui permet que nous soyons ceinturés, que nous soyons maintenus droits, parce que nous sommes dans la vérité de Dieu et que nous marchons dans cette vérité. La cuirasse de la justice. Cette cuirasse protège les organes vitaux, les poumons, le cœur. Cette justice qui nous protège, ce n'est pas notre propre justice. Ésaïe nous le dit bien, au chapitre 64, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Si nous pensons combattre le diable avec notre justice, il aura vite fait de trouver les défauts de la cuirasse, comme on dit. Et il aura vite fait d'enfoncer sa dague, son poignard, là où il peut passer. La cuirasse de la justice, ce n'est pas notre justice. La cuirasse de la justice, c'est la justice de Christ, qui seul peut nous protéger. Paul dit dans 1 Corinthiens, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, ne peut pas faire les fanfarons avec notre propre justice. On peut se glorifier parce qu'on est couvert par la justice de Jésus-Christ. C'est la justice qui... Jésus a été fait pour nous justice. La justice s'obtient par la foi en Christ. Philippiens. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et dans le prophète Jérémie, Jésus est appelé l'Éternel, notre justice. C'est lui qui est notre justice. Donc la cuirasse de la justice, ce n'est pas notre justice, c'est la justice de Jésus-Christ. C'est Christ lui-même qui est notre cuirasse. Cette cuirasse n'est utile que si on la porte. Si on va combattre avec notre propre autosatisfaction, notre propre justice, on va tout de suite aller à la défaite. Il faut revêtir la cuirasse de Christ, de sa justice à lui. Alors nous pouvons aller combattre, parce que nous ne combattons pas en notre nom, nous combattons au nom du Seigneur Jésus. Et nous sommes recouverts du Christ. Il nous faut véritablement revêtir Christ et sa justice. Ce sont des choses spirituelles, bien sûr, mais qui sont très importantes si nous voulons combattre. Nous sommes aussi zélés pour faire connaître l'évangile de paix. C'est ce qui nous aide à avancer, à marcher. Les chaussures nous protègent des aspérités du sol et des blessures. Ce qui nous fait avancer chaque jour, ce n'est pas la crainte ou la haine, mais la paix et l'amour. C'est un combat sans haine, sans agressivité. Quand nous combattons pour le Seigneur, nous ne devons pas avoir de haine dans nos cœurs. Nous annonçons l'Évangile, nous annonçons la paix, et nous résistons aux attaques du diable. Mais nous n'avons aucune haine dans notre combat. C'est la paix, l'amour, c'est un combat sans haine, sans agressivité. Ce qui motive nos actions doit être l'amour et la bienveillance, la paix du Seigneur. Romains au chapitre 10 nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alors, nous avons à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Annonçons la bonne nouvelle. Soyons de ceux qui mettent ces chaussures, ce zèle, et qui annoncent les bonnes nouvelles. Le bouclier, c'est une arme importante aussi. Ce n'est pas pour rester à l'arrêt et se protéger et puis aller plutôt en reculant. Non, le bouclier c'est une arme défensive, mais c'est pour avancer. C'est pour avancer et arrêter les flèches du diable. C'est le bouclier de la foi parce que justement, il faut rejeter le doute que le diable insinue sans cesse. Donc comment combattre le doute si ce n'est que par la foi, avec ce bouclier de la foi? Jacques nous dit dans son chapitre 1, dans sa lettre, « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. » Et l'Épître aux Hébreux nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une ferme assurance. Nous gardons en nous cette ferme assurance des choses que nous espérons. Et nous résistons au diable avec cette assurance, cette ferme assurance. Ayons donc la foi dans la parole de Dieu, dans ses promesses, pour résister aux insinuations du diable et résister aussi au découragement. Nourrissons notre foi de toutes les promesses du Seigneur pour résister. Le casque du salut. Philippiens 4, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La tête, c'est le siège de nos pensées. Le casque, c'est garde nos pensées en Christ. Gardez nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Savoir de façon définitive que notre salut nous est acquis par le sacrifice que Jésus a accompli une fois pour toutes. Voilà ce qui nous garde dans la paix quand le diable attaque. C'est le casque qui protège des pensées vagabondes et nous garde dans la certitude du salut que Jésus nous offre. C'est un casque qui nous protège, nos pensées, parce que le diable cherche à nous brouiller, les pensées quelquefois. Mettons le casque du salut. Nous sommes sauvés, c'est une certitude. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Pour bien manier cette épée, il faut bien connaître la parole de Dieu et l'utiliser à bon escient. On n'agite pas une épée n'importe comment. On n'utilise pas non plus la parole de Dieu n'importe comment et n'importe quand. Il ne s'agit pas de citer des versets à tout bout de champ. Il faut choisir les paroles appropriées à chaque situation. Pour cela, il n'y a que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui peut nous aider. Mais il faut que nous nous soyons nourris nous-mêmes de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous rappeler ces paroles pour les utiliser quand le diable attaque. Alors cette parole pourra être efficace, comme nous le lisons dans Hébreux, au chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le diable a aussi essayé d'utiliser la parole de Dieu tenter Jésus en lui disant « Il est écrit ceci à ton sujet. » Mais Jésus à chaque fois lui répondait « Il est écrit aussi ceci. Hein? » Donc, c'est pas parce que quelqu'un nous donne une parole soi-disant extraite de la parole de Dieu, de la Bible, s'il y a une autre parole qui contredit, nous devons utiliser la bonne parole pour pouvoir combattre les erreurs. Donc, il faut connaître la parole de Dieu, il faut s'en nourrir régulièrement pour pouvoir l'utiliser comme une arme pour combattre les erreurs, pour combattre l'hérésie, qu'on appelle. Demandons au Seigneur de nous aider justement à discerner les paroles qui sont bien appropriées à chaque circonstance, à chaque situation. À parler en l'air, on ne va pas donner un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est à nous à vraiment avoir une lecture profonde de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse ensuite nous redonner ses paroles pour combattre le diable, pour combattre le doute, pour combattre les faux enseignements, les fausses doctrines. Oui, frères et sœurs, poursuivons notre combat et notre route, parce qu'il n'y a que ça de vrai, hein. Si vous pensez que vous allez pouvoir vivre votre petit bonheur tranquille sur la terre, c'est faux. Déjà, rien que, comme on l'a vu dès le départ, rien que pour gagner sa subsistance, il nous faut travailler dur à la sueur de notre front. Et pour la vie chrétienne, c'est la même chose. Nous ne devons pas donc en être étonnés. Nous poursuivons notre combat et notre route dans la foi au Seigneur Jésus. Et à la fin de notre vie seulement, nous pourrons dire avec Paul, comme il l'a dit en 2 Timothée 4, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Qui auront aimé son avènement. Nous attendons l'avènement du Seigneur. Nous avons aimé déjà le fait qu'il soit venu sur la terre pour nous sauver, et nous aimons aussi et nous attendons sa venue. Alors que le Seigneur nous renouvelle. Amen.